Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la prière de la foi. Dans Jacques chapitre 5 et au verset 13, il est écrit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. » Et j'ai relevé cette expression, la prière de la foi. Vous remarquez ici que la foi est associée à la prière. Et en fait, on pourrait dire ce matin que les deux sont indissociables. Nous devons toujours associer la foi à la prière. C'est un peu comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Il y a le côté pile, le côté face. Eh bien, il y a la foi et il y a la prière. Et les deux doivent être ensemble. Parce que la foi nous pousse à prier, on s'attend à Dieu. Et puis, la prière requiert la foi pour que la bénédiction se produise, que le miracle arrive. Donc, prier sans la foi, c'est un égarement, c'est une erreur dans laquelle nous pouvons tomber. Mais je compare ceci à prier sans la foi, c'est comme si vous êtes dans votre voiture et vous appuyez sur l'accélérateur, mais tant que vous n'avez pas enclenché une vitesse, la voiture ne bouge pas. Alors la voiture va faire beaucoup de bruit si vous appuyez sur l'accélérateur parce que le moteur va tourner, donc ça va faire du bruit. Mais en réalité, tant que vous n'avez pas enclenché la première vitesse, la voiture n'avancera pas. Et prier sans la foi, ça peut faire beaucoup de bruit, mais ça n'avancera pas. Il n'y aura pas de progrès, il n'y aura pas d'avancée. La prière de la foi, au contraire, ouvre le chemin de la bénédiction. Jacques, ici, évoque plusieurs situations par lesquelles nous passons. Il parle de la souffrance. Quelqu'un est-il dans la souffrance ? Peut-être le cas de quelqu'un ce matin, vous êtes venu dans la souffrance parce que, c'est peut-être un membre de votre famille qui vous a rejeté, qui vous a mis de côté, qui vous a méprisé, votre cœur est brisé, vous êtes dans la souffrance. Alors, Jacques enseigne la prière. La prière est là pour réconforter. Quelqu'un est-il dans la joie ? C'est-à-dire, vous avez eu un exaucement, la porte pour le travail s'est ouverte, une bénédiction, un enfant est arrivé. Eh bien, chantez des louanges, remerciez le Seigneur. Et puis, c'est peut-être la maladie, autre cas de figure. Les médecins ont diagnostiqué un cancer, une maladie incurable. Il n'y a plus de solution médicale. Mais là encore, ce n'est pas parce qu'un diagnostic est posé que Dieu a dit son dernier mot, parce que la foi est au-delà de tout ce que les médecins peuvent dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'espoir, ça veut dire que nous allons prier le Seigneur, qui est le Dieu de l'impossible, le Dieu du miracle. Dans ce passage, le malade va demander aux anciens la prière de la foi. La prière d'onction d'huile. Ici, la prière est associée à l'onction d'huile. L'huile est un symbole du Saint-Esprit assez couramment dans l'Écriture. L'huile n'est qu'un instrument, ce n'est pas l'huile qui agit en elle-même. Le texte dit, c'est la prière dans le nom de Jésus, la prière de la foi dans le nom de Jésus qui relèvera le malade. Donc nous avons bien des indications sur la manière de prier dans le nom de Jésus et la promesse de ce relèvement, parce que c'est Dieu qui va faire le miracle, eh bien, elle est attribuée, la gloire est attribuée à Dieu, à son nom soit toute la gloire. Alors peut-être vous êtes découragé ce matin, parce que vous avez déjà prié, mais vous êtes toujours malade, c'est une souffrance. Et même quelquefois vous priez et vous priez davantage, mais votre propre santé se dégrade. Et le diable fera tout pour vous décourager, pour vous dire, eh bien tu vois, ça ne sert à rien de prier, puisque plus tu pries, plus la situation se dégrade. Dieu ne répondra pas, Dieu vous a abandonné et il vous fait croire des choses fausses. Alors ne croyez pas ces paroles de doute, mais au contraire, revenez à la parole, le verset 15, la prière de la foi sauvera le malade. Ça c'est notre désir, c'est notre cœur, ne pas nous laisser contaminer par l'adversaire, ne pas croire ces paroles de doute, de découragement, mais revenir à la prière de la foi. Quand vous associez la foi à la prière, frères et sœurs, c'est une arme puissante pour remporter des victoires. Associons toujours la foi et la prière. Je vais vous montrer dans l'enseignement de Jésus ce principe qui ressort dans Matthieu 21, verset 18. Par exemple, Matthieu 21, au verset 18, Jésus nous demande ici de demander, ou c'est-à-dire de prier, demander ou prier avec foi. Matthieu 21, 18. Le matin, en retournant à la ville, donc c'est Jésus, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples, qui virent cela, furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Et voyez que Jésus associe la foi à la prière. C'est un enseignement très important dans la parole de Dieu qui nous montre que l'un ne va pas sans l'autre. Dans le contexte, vous avez entendu certainement parler de ce figuier qui a été maudit, ce figuier que Jésus a séché par une parole. Ça a fait couler beaucoup d'encre parce que l'évangile de Marc, qui rapporte le même passage, précise que ce n'était pas la saison des figues. Et donc, pourquoi est-ce que Jésus s'étonne de ne pas trouver de figues si ce n'est pas la saison des figues ? Bien, le figuier, en fait, produit un fruit précoce avant les feuilles. Ce sont des petites figues comestibles qui annoncent la production à venir, la récolte. Mais là, en s'approchant, Jésus voit qu'il n'y a rien. Il n'y a pas donc de signe annonciateur dans ce figuier d'une récolte à venir. Alors, on comprend que Jésus va utiliser ce figuier de manière symbolique. Et que si vous lisez dans l'Ancien Testament, Osée chapitre 9, verset 10, Israël est comparé à un figuier. Et c'est tout à fait probable que Jésus ait vu dans ce figuier la nation d'Israël. Osée 9, 10 dit « J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier ». Et souvent, ce texte est donc interprété comme le jugement du Seigneur sur cette nation d'Israël dont il a voulu trouver les fruits, les prémices des fruits annonciateurs d'une récolte et qu'il n'a pas trouvé puisque le peuple a rejeté Jésus et ils n'ont pas vu en lui le Messie. Et donc, cette malédiction qui tombe sur le figuier qui a été séché, bien c'est l'annonce prophétique de cette malédiction qui va frapper Israël puisqu'ils ont rejeté le Messie et ça s'est effectivement produit en l'an 70 lorsque le général romain Titus a envahi Jérusalem et que Israël, la ville de Jérusalem a été détruite et Israël dispersé jusqu'à 1948, donc 2000 ans de dispersion. Au-delà de cet aspect prophétique, Jésus enseigne sur la foi. Il veut mettre l'accent sur la foi. Il dit « si vous avez la foi, donc c'est possible de ne pas avoir la foi. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir la foi et la développer. » Il dit « si vous ne doutiez pas dans votre cœur ». Donc c'est possible d'avoir encore un cœur rempli de doutes, d'incrédulité. Et Jésus va au-delà du figuier parce que le figuier n'était qu'un prétexte à l'enseignement. En réalité, il dit « mais vous pourriez même vous adresser à cette montagne ». Et cette montagne, par rapport au figuier, c'est énorme la montagne. Quand vous êtes au pied d'une montagne, là les Pyrénées, vous regardez, vous dites « comment on peut faire pour passer cette montagne ? Elle est trop énorme ». Donc il passe de ce simple figuier à des difficultés qui sont insurmontables, inhumaines, incroyables, les montagnes. Et il dit, le figuier, c'est déjà une chose, vous avez vu comment il a été séché en un instant, mais si vous aviez la foi, vous pourriez aller beaucoup plus loin et vous adresser à des problèmes encore beaucoup plus grands, comme des montagnes. Et il dit, à ce moment-là, les montagnes qui sont des obstacles, eh bien, vous allez mettre votre foi dans le miraculeux. Et nous devons, nous, en tant que chrétiens, nous adresser aux montagnes, c'est-à-dire nous adresser aux difficultés et leur dire « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » par la parole. C'est ce que Jésus enseigne. Il dit « il y a deux possibilités. Soit c'est la montagne qui vous parle et qui vous dit « tu n'y arriveras jamais, c'est infranchissable ». La montagne vous dit « c'est pas possible ». Elle est en train de vous parler à votre esprit et vous montrer que vous n'y arriverez jamais. Soit c'est vous qui parlez à la montagne et qui lui dites « Maintenant, ça suffit. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Et Jésus nous dit clairement que nous devons prendre le parti de nous parler aux problèmes, aux difficultés, aux montagnes qui nous entourent, qui sont insurmontables, et de prononcer ces mots dans la foi. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Alors, ce qui compte, ce n'est pas les mots en eux-mêmes ou l'intensité, mais c'est la foi, l'autorité que nous avons dans le nom du Seigneur par la foi. Et vous savez que la parole est puissante, elle est créatrice. D'ailleurs, notre Dieu a créé l'univers par sa parole. Dès le début, la parole est agissante et puissante. Alors, nous devons comprendre que la parole, dans le nom du Seigneur, a une puissance et nous devons l'utiliser ainsi. Et même, nous devons déclarer de bonnes choses sur notre vie. Trop souvent, même des chrétiens disent « Oh, je n'en vaux pas la peine, je suis maudit, personne ne m'aime, personne ne s'intéresse à moi. » Et ils déclarent sur leur propre vie des malédictions, par leurs propres paroles. Et en fait, ils donnent une arme au diable pour les enfoncer. Or, nous devrions, par nos paroles, bénir et dire du bien sur nous-mêmes, sur nos vies, sur nos frères, sur nos sœurs, sur l'Église, sur l'œuvre de Dieu, utiliser nos paroles pour avoir des paroles inspirées, des paroles que Dieu veut. Regardez le Proverbe 18, verset 21, qui dit ceci, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » C'est à double tranchant. La mort et la vie. Tu as le pouvoir de bénir, tu as le pouvoir de maudire. Alors faites le bon choix ce matin. Utilisez votre bouche pour bénir le Seigneur et pour bénir les autres. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et même un chrétien qui a donné sa vie au Seigneur, mais qui se repaît dans des paroles de malédiction, de jugement, de critique, de condamnation, eh bien, il est en train d'attirer, malgré lui, sur sa propre vie, la malédiction qu'il est en train de proférer par sa bouche. Donc, frères et sœurs, soyons vigilants à tout ce qui sort de notre bouche. Et Jésus nous dit que nous devrions utiliser nos paroles avec foi et pour nous adresser à des obstacles infranchissables et pour prendre autorité dans le nom de Jésus. Le verset 22 nous indique vraiment la manière dont nous devons prier. Verset 22, tout ce que vous demanderez, c'est-à-dire quand vous priez, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et là, Jésus bien insiste à la fois sur la prière, la demande, la supplication, l'intercession, mais en même temps, il nous demande d'y ajouter la foi. Et parfois, nous prions avec si peu de foi parce que nous ne croyons pas que Dieu peut vraiment nous exaucer. Mais nous ne sommes pas les seuls. C'est arrivé à bien des chrétiens, même dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, il est fait le récit de Pierre qui avait été arrêté et qui devait être exécuté. Le roi voulait plaire à la population et faire exécuter Pierre. Et quand l'Église apprit que Pierre était en prison, elle s'est mise à prier pour lui. La Bible dit qu'elle ne cessait de prier pour Pierre. Et alors qu'ils étaient en prière et qu'eux ne savaient pas ce qui se passait, Dieu a envoyé un ange dans la prison. Alors quand nous prions, il se passe des choses. Sauf que quand ils sont dans la réunion de prière, ils ne voient pas ce qui se passe. Ils sont juste en train de prier Dieu. Mais alors qu'ils sont en train de prier, il se passe des choses. Et alors que Pierre est en train de dormir, c'était même la veille de son exécution qui était prévue le lendemain. Pendant cette nuit-là, un ange arrive dans la prison. Et alors que Pierre était gardé quand même par 4 escouades de 4 soldats, ça veut dire 16 soldats qui étaient sur son dos quand même, on dirait que parfois les situations sont pas simplement compliquées, mais vraiment trop difficiles. Parce que ce n'était pas un garde qui était sur lui, c'était 16 gardes. C'était trop lourd, c'était impressionnant. Même à vue humaine, il n'y avait aucune issue, aucun espoir. Il était tellement bien gardé. Et alors qu'il dormait, un ange est venu le secouer et lui a dit « Pierre, sors, sors de cette prison. » Et là, il s'est passé un miracle, c'est que les gardes ont été aveuglés. Ils n'ont pas vu Pierre sortir. Le texte dit qu'il a passé la première garde, puis la deuxième garde, puis il est arrivé devant la porte de fer de la prison et la porte de fer s'est ouverte toute seule devant Pierre. Donc on voit que Dieu a tout pris en main pour que Pierre sorte. Alors l'Église est toujours en train de prier chez Marie, ils sont dans une réunion de prière dans une maison, Ils prient toujours pour que Dieu bénisse Pierre, mais ils ne savent même pas que Pierre est déjà sorti de prison. Et Pierre se rend compte qu'il est sorti. D'abord, il se demande si c'est une vision qu'il a ou si c'est dans la réalité, tellement c'est surnaturel, parce que c'est vraiment incroyable, c'est impossible. Il se retrouve hors de la prison et il savait qu'il y avait une réunion de prière ce soir-là dans la maison de Marie. Il se rend chez Marie et alors qu'il frappe à la porte, les disciples envoient la servante pour dire « Mais qui vient frapper ?» parce qu'ils étaient toujours dans la peur que des Juifs viennent les arracher et les persécuter. Et lorsque la servante Rode entend la voix de Pierre, elle est dans une telle joie qu'elle oublie d'ouvrir et elle va prévenir les disciples « J'ai une bonne nouvelle, Pierre est sorti de prison. » Et là, ils vont dire deux paroles qui sont vraiment incroyables. D'abord, ils lui disent « Mais tu es folle, ce n'est pas possible. » Alors qu'ils sont en train de prier pour qu'il se passe quelque chose et que Pierre soit protégé, ils n'arrivent pas à croire que c'est possible qu'il soit exaucé. Vous voyez le peu de foi qu'ils avaient. Ils disent « Tu es folle !» Donc c'est déjà une parole assez dure à encaisser. Mais comme elle insiste et elle dit « Si, si, je vous assure, j'ai entendu Pierre, c'est bien sa voix, c'est lui, il est derrière la porte. » Eh bien, ils lui disent « C'est pas possible, ça doit être son ange. » Donc ils ne croyaient vraiment pas que c'était Pierre et ils cherchaient même des solutions ailleurs. Donc deux choses fausses. Cette femme n'était pas folle et ce n'était pas son ange. Ils étaient prêts à croire en fait des choses fausses, mais ils ne croyaient pas la vérité. Et finalement, ils sont allés ouvrir, Pierre est rentré au milieu d'eux, ils ont prié ensemble et ils ont béni le Seigneur pour sa grâce. Donc des fois, nous sommes prêts à croire des choses erronées, tu es folle, c'est son ange, mais nous ne sommes pas prêts à croire que Pierre est vraiment ressuscité, que le miracle a eu lieu, que la bénédiction de Dieu est là. Et ça, c'est une leçon pour nous pour associer vraiment la foi à la prière. Deuxième exemple, toujours Jésus, on va lire le récit parallèle dans Marc au chapitre 11 et au verset 20. Marc chapitre 11, verset 20, il s'agit du même passage mais avec des éléments très complémentaires qui ne ressortaient pas dans le premier passage. Donc Marc chapitre 11, verset 20, le même matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines, ce fameux figuier dont on a parlé qui symbolisait Israël. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos offenses. Alors nous arrivons au deuxième point, c'est maintenant la foi dans l'exaucement. Ayez foi en Dieu, littéralement, ayez la foi de Dieu. Vous verrez ça dans d'autres versions. Ayez la foi de Dieu, c'est-à-dire cette foi qui est nourrie par Dieu, qui est suscitée par Dieu, qui est entretenue par Dieu. Une foi, d'autres versions disent, ayez une foi qui repose sur Dieu, ou la parole vivante, et appuyez-vous sur la fidélité de Dieu. Alors la foi, c'est plus que croire que Dieu existe. La foi, c'est savoir en qui nous mettons notre espérance, en Dieu, qui est au-dessus de tout et qui peut tout. Alors, le premier verbe ici, c'est au verset 24, c'est un impératif. Jésus dit d'abord « croyez », un impératif, « croyez ». Impératif présent, c'est donc un ordre. Alors, nous devons nous soumettre à l'ordre de Jésus et croire dans la foi, exercer la foi. Nous devons croire maintenant, croyez au présent. Même si vos yeux vous disent le contraire, vous disent « ce n'est pas possible, ça ne s'arrangera pas, je vois bien que ça ne va pas marcher », croyez, ça c'est l'impératif. Votre foi ne doit pas s'appuyer sur ce que vous voyez, mais sur les promesses de la parole de Dieu. Non pas sur ce que vous sentez, non pas sur vos impressions, mais sur ce que Dieu déclare, sur sa parole qui est certaine. Et nous devons arriver au niveau à croire davantage la parole de Dieu que ce que nos yeux nous montrent. C'est pourquoi il nous dit « croyez d'abord ». Croyez, commencez par croire. 2 Corinthiens 5, 7, c'est Paul qui l'enseigne ainsi. « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Croyez. Vous ne le voyez pas encore, mais croyez. Parce que vous ne marchez pas par la vue, vous marchez par la foi. Tant que vous marcherez par la vue, et si vous attendez de voir pour croire, alors vous serez toujours arrêté, vous serez bloqué et vous ne pourrez pas avancer dans la vie chrétienne. Vous serez souvent déçu. Donc le premier verbe, c'est croire à l'impératif. Et remarquez que c'est un impératif présent. Nous devons croire dès maintenant. Deuxième verbe, c'est vous l'avez reçu. Et là, maintenant, on est au passé composé. Vous croyez maintenant et vous l'avez reçu. Et là, on commence à rentrer dans les temps de Dieu. Le passé composé. C'est-à-dire que Dieu utilise le passé dans le présent. Il dit, croyez maintenant que vous l'avez déjà reçu. Vous l'avez reçu, c'est-à-dire spirituellement, vous l'avez saisi par la foi. Vous êtes dans le temps de Dieu, en fait, nous devons rentrer dans les temps de Dieu, croire dès maintenant et déjà recevoir dans notre cœur. Vous l'avez dans votre cœur, vous l'avez par la foi. Et là, vous n'êtes plus dans le temps naturel, vous êtes dans le temps divin, le temps de la foi. Et ce temps continue avec le futur, vous le verrez s'accomplir. Vous avez le présent, maintenant nous croyons, par la foi nous l'avons déjà reçu, ça c'est le passé, mais nous le verrons, c'est le futur. Et voyez que ces trois temps, en fait, sont réunis autour de la foi, vous le verrez s'accomplir, parce qu'il y a un temps, il y a un temps entre la prière et l'exaucement. Et c'est ce temps-là, c'est cette durée-là, bien que nous devons tenir dans la foi. On aimerait tous, bien sûr, après notre prière, on a prié, Seigneur, voilà, intervient, et puis on dit Amen, et puis hop, la chose se produit. Eh bien, quelquefois, nous serons éprouvés dans le temps parce qu'on ne sait pas quand Dieu va agir, comment il va faire, où il va le faire, mais le texte dit, vous le verrez s'accomplir. Et en fait, entre le temps où nous avons prié et où nous allons le voir, il y a une durée qui est indéterminée, que Dieu connaît. Et cette attente-là, bien, nous devons la vivre dans la foi. Et il y a souvent des temps d'attente dans la vie chrétienne. Vous l'avez remarqué, il y a des temps où on est éprouvé, où la chose ne vient pas, parce qu'il y a un temps qui est déterminé. Et si vous ne savez pas attendre dans la foi, dans la patience, dans la confiance, vous serez frustré parce que vous direz « Dieu n'a pas répondu, Dieu n'a pas agi ». Ce n'est pas qu'il n'a pas agi, mais c'est parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Et donc, en attendant le temps de Dieu, puisque vous le verrez s'accomplir, eh bien, nous allons persévérer dans la foi et dans la reconnaissance. Tout ça, c'est un enseignement que Jésus nous explique par rapport à Dieu. Il y a donc le présent, le passé, le futur qui sont concentrés en même temps. C'est pour ça que Jésus a pu dire aux scribes et aux pharisiens quelque chose qui était vraiment incompréhensible pour eux. Jésus leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, mais fût, ça faisait 2000 ans. C'était il y a 2000 ans qu'il était mort, Abraham. Mais il dit, je suis au présent. Donc, Jésus, déjà, était toujours dans les temps de Dieu. Il n'était jamais bloqué dans un seul temps. C'est pourquoi, quand la promesse est faite à Abraham dans Romains chapitre 4, verset 17, Dieu lui dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Quand Dieu lui dit, je t'ai établi, combien d'enfants a Abraham à ce moment-là? Zéro enfant encore. Car Dieu lui donne cette promesse que l'enfant n'est pas né. Mais pour Dieu, c'est déjà quelque chose de fait. Et si vous regardez bien, vous verrez que des fois, il dit « je t'établis au présent », des fois, il dit « je t'établirai » et des fois, il dit « je t'ai établi ». Et il part de la même chose, sous trois temps différents. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et là, on entre dans les temps surnaturels de Dieu, qui appellent les choses, elles ne sont pas, Dieu les appelle, et elles sont, on l'a déjà reçu, mais elles ne sont pas encore dans le monde physique, dans le monde matériel, mais spirituellement, elles sont déjà là. Et donc, c'est là, dans cette dimension-là, que Jésus veut nous faire entrer, ici, dans le verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez maintenant, croyez dans le temps présent, que vous l'avez reçu, passé composé, et vous le verrez, futur, s'accomplir. » Eh bien ça, c'est notre part, c'est d'entrer dans cette bénédiction. Mais il termine en disant attention à vos cœurs, parce que si vous avez un manque de pardon, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si vous avez de l'amertume, parce qu'on vient à l'église, on loue, mais notre cœur, s'il est rempli d'amertume, de jugement, de ressentiment, de haine, attention, Dieu n'écoute pas la prière. À ce moment-là, ça crée un mur, ça crée un blocage. Attention, et là, nous devons nous repentir et ne pas passer par-dessus en disant « Dieu est bon, Dieu pardonne ». Oui, Dieu pardonne quand on se repent avec un cœur sincère. Donc, c'est un avertissement à veiller. Voyez, Proverbe 4, 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne laissez pas ses racines d'amertume, de manque de pardon. » Vous voyez, quelqu'un qui en a contre un autre, ils s'en veulent, ils sont dans l'offense, ils sont dans toutes sortes de conflits. Alors, garde ton cœur parce que de lui viennent les sources de la vie. Si tu ne règles pas cela, eh bien ta prière ne dépassera pas le plafond et elle restera cantonnée ici. On arrive à un troisième point, c'est maintenant la foi qui s'approprie dans 1 Jean chapitre 5, verset 14. C'est encore un enseignement complémentaire à ces deux paroles de Jésus que nous avons vues. 1 Jean 5, 14. « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » D'abord, nous avons une assurance. La foi n'est pas basée sur nos impressions, sur nos émotions, sur nos vagues croyances. Non, ce n'est pas juste un sentiment. La foi, c'est une certitude. Et c'est là que nous devons être dans la foi, une ferme assurance. Vous voyez, quand des alpinistes montent au sommet d'une montagne ou d'un glacier, ils se mettent des cordes les uns aux autres. Ça leur donne de l'assurance. Ça veut dire que si un dérape, les autres vont le retenir. C'est quand même une assurance. Imaginez que vous êtes tout seul dans un glacier sans personne pour vous rattraper si vous tombez. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais quand vous avez cette corde-là, c'est une assurance qui vous donne une certaine protection. Eh bien, c'est ça qu'il nous faut avoir, c'est cette protection, cette assurance reliée à Dieu qu'il veillera sur nous et que nous tiendrons. Et ça, c'est une assurance qui est précieuse. Ensuite, il nous dit qu'il nous faut demander selon sa volonté. Ça, c'est un point très important. C'est la fin du verset 14. Si nous demandons quelque chose, mais selon sa volonté, et ça, on devrait le souligner parce que beaucoup de nos demandes ne sont pas selon sa volonté, finalement. Nous devons déjà prier pour chercher la volonté de Dieu et prier selon sa volonté. Parce que d'autres versets nous mettent en garde parce que vous priez à tort et à travers. Par exemple, Jacques, chapitre 4, verset 3, il dit « Vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » On voit qu'on peut prier, mais mal, avec des mauvais motifs. Alors, comment prier? Comment connaître la volonté de Dieu? Bien, pour connaître la volonté de Dieu, plus vous allez vous nourrir de la parole de Dieu, plus votre volonté va s'aligner sur la volonté de Dieu. Parce que les prières charnelles ne plaisent pas à Dieu. Les prières du style pour le confort, pour donner, pour avoir toujours plus, pour chercher son intérêt, pour éviter tout service, éviter tout sacrifice, tout cela n'intéresse pas Dieu. Mais quand vous priez selon la volonté de Dieu, « Seigneur, je te confie ma vie, fais de moi ce que tu veux, je veux être un instrument entre tes mains », et vous êtes prêt à faire sa volonté, alors là, les choses s'enclenchent parce que ça plaît à Dieu. Et la bénédiction arrive. Que faire une fois qu'on connaît la volonté de Dieu? Bien, on sait qu'il y a un coût à payer. Quand on veut faire la volonté de Dieu, il y a une grande différence entre celui qui est un croyant et puis le disciple de Jésus-Christ qui a renoncé à tout pour le suivre. Si vous êtes juste un croyant, ben, c'est déjà bien. Vous croyez en Dieu, vous avez donné votre cœur au Seigneur. Mais vous devez passer au stade de disciple, c'est-à-dire Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon roi, c'est lui qui dirige ma vie. Il y a une étape à franchir pour te dire « Jésus est mon sauveur », c'est bien, c'est une première étape. Je bénéficie du sacrifice, Jésus est mort à la croix pour effacer mes péchés, je suis sauvé. Mais maintenant, je veux accepter Jésus comme mon Seigneur et c'est lui qui va diriger ma vie et me conduire dans sa volonté. Et là, vous allez commencer à entrer dans la bénédiction que Dieu a pour vous parce que vous cherchez non pas votre volonté, mais la sienne. Mais ça nécessite des sacrifices et faire ce que Dieu veut. Et puis, donc, si vous êtes là dans cette optique, vous êtes devenu un disciple, vous priez maintenant selon sa volonté. Alors, il nous écoute et nous avons cette assurance qu'il entend nos prières. C'est le stade maintenant de la communion avec Dieu, c'est précieux. Vous voyez, on grandit, on devient un disciple, on entre en communion avec Dieu, on est un avec Dieu. Dieu nous écoute, car Dieu n'écoute pas toutes les prières, mais celles qui sont selon sa volonté. Alors, lorsque vous passez du temps dans la présence de Dieu, vous développez cette relation avec Dieu. C'est extraordinaire. C'est ce que Jésus explique, vous voyez, dans Jean 17, verset 22, cette belle prière qu'on appelle la prière sacerdotale, où Jésus, c'est vraiment le souverain sacrificateur qui prie pour nous. Jean 17, verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé, moi en eux. » C'est-à-dire Jésus en nous, cette communion et Dieu en nous par Christ. « Moi en eux et toi en moi. » Il y a donc cette intimité, cette relation que nous devons développer dans la prière, trouver cette communion parfaite avec Dieu. Et Jean continue, eh bien il dit, Dieu nous écoute, et là je vous lis la parole vivante, le verset donc, suivant, le verset 15, « Si nous savons qu'il nous écoute, nous avons en même temps la certitude que l'objet de nos demandes, quel qu'il soit, nous est déjà acquis. » Et là on voit que la foi rend présent ce qui est inaccessible. Elle rend accessible ce qui est inaccessible. Elle rend spirituellement présent la bénédiction future. Par la foi, nous pouvons demander des choses à Dieu et nous attendre à les avoir. Nous l'avons spirituellement dans le temps présent. Je reviens à Abraham. Dans ses promesses, Dieu a donné deux choses à Abraham, dès le début. Il lui a donné une patrie, une terre, c'est Israël. À l'époque, ça s'appelait Canaan. Et il lui a donné une descendance. Et en réalité, Abraham, quand il est arrivé dans la terre que Dieu lui a donnée, il constate une chose, les Cananéens étaient là dans le pays. Et il fallait s'approprier. Et ce n'est finalement que dans le temps, et bien des années plus tard, après la sortie d'Égypte, qu'il y a eu la conquête de Canaan et que les descendants vont s'emparer du pays. Dieu l'a donné, mais il ne la possédait pas encore matériellement. Ça s'est fait dans le temps et ça s'est fait par sa descendance, qu'il n'avait pas non plus encore, mais qui est arrivée par la suite. Donc, Dieu donne, mais nous devons nous les approprier par la foi et puis ensuite conquérir ce que Dieu nous a donné. Je termine avec deux exemples de foi associée à la prière qu'on trouve dans la parole. Le premier, c'est celui de cette femme qui était atteinte d'une perte de sang et qui, dans son désespoir, a entendu que Jésus passait et elle a dit « Mais si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement ». Elle avait dépensé son argent depuis 12 ans parmi les médecins sans trouver de solution. Mais elle va placer la foi avant tout et sa foi en Jésus. Si seulement, je peux toucher. Alors c'est un acte de foi, c'est pas du mysticisme, c'est pas qu'on entend des voix, c'est qu'elle croit que Jésus peut faire quelque chose. Donc elle va traverser la foule, elle va sortir malgré que la loi la rendait rituellement impure, elle a franchi donc quelques barrières et elle a touché le bord du vêtement. Et au même moment où on voit cette foi qui s'exerce, donc mettons notre foi en Jésus, au même moment où sa foi s'exerce, Jésus dit « Mais qui m'a touché ?» Qui m'a touché ? Parce qu'il avait senti qu'une force était sortie de lui. La foi déclenche la bénédiction. La femme effrayée et tremblante avoue ben « c'est moi ». Elle se dénonce en quelque sorte. Mais Jésus lui dit cette parole « Ta foi t'a guéri ». Ce n'est pas le vêtement qui a guéri cette femme, mais c'est la foi dans le Seigneur Jésus qui l'a guéri. Approchons-nous du Seigneur Jésus avec foi. C'est lui qui guérit, c'est lui qui agit. La foi n'est pas superstitieuse. Vous voyez, on n'est pas attaché à des objets, à des reliques, à des statues. Non, notre foi, elle est attachée à Jésus directement. C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui dit « ta foi t'a guéri ». La foi permet de nous approprier la bénédiction. Le deuxième exemple se trouve dans Matthieu chapitre 9 et au verset 27. Il s'agit de deux aveugles qui sont là sur la route. Et ils entendent que Jésus passe et ils se mettent à suivre Jésus en criant « Aie pitié de nous, fils de David ! Aie pitié de nous, fils de David !» Et ils reconnaissent ici Jésus comme le Messie, attendu, et ils demandent la prière. Ce qui est étonnant dans ce passage, c'est que Jésus ne s'arrête pas pour prier pour eux, Mais il continue sa route. Il continue sa route, alors on ne sait pas combien de temps, mais jusqu'à la maison. Et ça a duré un certain temps. Mais ces aveugles, ils n'ont pas lâché, ils ne se sont pas découragés, ils ne se sont pas assis sur le bord du chemin. Ils ont continué à suivre le mouvement, aidés par les autres. Ils continuaient à suivre Jésus, en fait, jusqu'à sa demeure, en priant « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi ». On ne sait pas combien de kilomètres ils ont fait. Peut-être quelles pensées les animaient, peut-être de dire « Mais pourquoi est-ce que Jésus ne prie pas pour nous ?» Peut-être ils auraient pu être découragés. Jésus a éprouvé leur foi. Personne n'aime vraiment être éprouvé. Mais en tout cas, quand Jésus est arrivé à la maison, donc ça a mis le temps que ça a duré, alors il a laissé les aveugles s'approcher de lui. Ça montre que ces aveugles devaient persévérer jusqu'à ce que Jésus les admette dans sa présence. Et Jésus leur a posé cette question, « Croyez-vous que je puisse faire cela ? Croyez-vous ? » Et donc Jésus va mettre en avant la foi. Est-ce que vous croyez ? Mettez votre foi en action. Donc Jésus, oui, ces aveugles avaient bien reconnu que Jésus c'était le sauveur, comme on disait tout à l'heure, oui, Jésus c'est le sauveur, c'est celui qui pardonne les péchés, mais croyez-vous que je puisse faire cela ? Croyez-vous que je puisse guérir vos yeux et que vous allez recouvrer la vue ? À ce moment-là, ils répondent « Oui, Seigneur !» Et là, on voit que c'est une parole de foi, parce que Jésus dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Donc on voit que chez Jésus, il met toujours la foi en avant, que ce soit cette femme qui est venue, que ce soit ces aveugles. Alors, vous remarquerez que les miracles se produisent tout le temps de manière très différente. Ici, voilà, ça se passe ici devant la maison. À d'autres fois, c'était dans d'autres contextes. Ça, ce n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est de venir à Jésus avec notre foi. On va prier quelques instants. On a vu que la prière et la foi doivent être vraiment intimement associés. Un peu comme on a deux jambes, eh bien, il nous faut la prière et la foi, sinon on ne peut pas avancer. Et peut-être vous avez prié, mais vous n'avez pas encore vu la réalisation des promesses. C'est pour ça que je vous encourage aussi à persévérer et à tenir bon dans l'attente, parce que vous l'avez déjà reçu dans votre cœur, mais vous le verrez s'accomplir. Donc ne soyez pas découragés, c'est le test de la foi, c'est l'épreuve dans la durée, et quelquefois il nous faut attendre paisiblement le secours de l'Éternel. C'est comme la parole dit, d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il y a une phase d'attente. Il y a une phase d'attente où on va rester dans la foi, dans la confiance que Dieu va agir. Alors, si vous priez sans la foi, bien finalement, vous manquez de puissance. Et la prière va être des paroles dans le vide. Mais la foi associée à la prière va ajouter de la puissance à vos prières. Quand vous priez selon sa volonté, avec foi, alors vous entrez dans le domaine du miraculeux. Que Dieu soit béni. Merci pour ta parole, merci pour ces conseils. Nous voulons exercer la foi, nous attendre à toi, Seigneur, à ta réponse. Parce que nous voyons bien qu'humainement, nous sommes au bout des possibilités, mais toi, tu peux faire encore au-delà. Et nous voulons croire, Seigneur, que ces promesses sont encore pour nous aujourd'hui, que tu n'as pas dit ton dernier mot, que tu es capable même d'agir au dernier moment, comme tu l'as fait pour Pierre, lorsque tu l'as sorti de cette prison, alors que sa condamnation était annoncée pour le matin suivant. Merci Seigneur, nous te confions tous nos projets, tous nos besoins, et nous croyons que tu es là ce matin pour bénir, pour accorder un renouvellement dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais inviter le groupe de louanges à venir. J'aimerais qu'on termine avec un dernier. La parole nous restaure, elle nous édifie, c'est la nourriture de notre âme, et nous voulons confesser qu'elle est la parole de Dieu, et qu'elle est bonne pour nous ce matin. Merci de permettre que cette parole encore trouve le chemin des cœurs et qu'elle produise du fruit dans nos vies, et que ton nom seul soit glorifié. Ta parole est puissante, efficace. Elle transforme les vies. C'est dans le nom de Jésus que nous la proclamons. Amen. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la prière de la foi. Dans Jacques chapitre 5 et au verset 13, il est écrit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. » Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Et j'ai relevé cette expression, la prière de la foi. Vous remarquez ici que la foi est associée à la prière. Et en fait, on pourrait dire ce matin que les deux sont indissociables. Nous devons toujours associer la foi à la prière. C'est un peu comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Il y a le côté pile, le côté face. Eh bien, il y a la foi et il y a la prière. Et les deux doivent être ensemble. Parce que la foi nous pousse à prier, on s'attend à Dieu. Et puis, la prière requiert la foi pour que la bénédiction se produise, que le miracle arrive. Donc, prier sans la foi, c'est un égarement, c'est une erreur dans laquelle nous pouvons tomber. Mais je compare ceci à prier sans la foi, c'est comme si vous êtes dans votre voiture et vous appuyez sur l'accélérateur, mais tant que vous n'avez pas enclenché une vitesse, la voiture ne bouge pas. Alors, la voiture va faire beaucoup de bruit si vous appuyez sur l'accélérateur parce que le moteur va tourner. Donc, ça va faire du bruit. Mais en réalité, tant que vous n'avez pas enclenché la première vitesse, la voiture n'avancera pas. Et prier sans la foi, ça peut faire beaucoup de bruit, mais ça n'avancera pas. Il n'y aura pas de progrès, il n'y aura pas d'avancée. La prière de la foi, en contraire, ouvre le chemin de la bénédiction. Jacques, ici, évoque plusieurs situations par lesquelles nous passons. Il parle de la souffrance. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Peut-être le cas de quelqu'un ce matin, vous êtes venu dans la souffrance parce que bien, c'est peut-être un membre de votre famille qui vous a rejeté, qui vous a mis de côté, qui vous a méprisé, votre cœur est brisé, vous êtes dans la souffrance. Alors, Jacques enseigne la prière. La prière est là pour réconforter. Quelqu'un est-il dans la joie? C'est-à-dire, vous avez eu un exaucement, la porte pour le travail s'est ouverte, une bénédiction, un enfant est arrivé, eh bien, chantez des louanges. Remercier le Seigneur. Et puis, c'est peut-être la maladie, autre cas de figure. Les médecins ont diagnostiqué un cancer, une maladie incurable. Il n'y a plus de solution médicale. Mais là encore, ce n'est pas parce qu'un diagnostic est posé que Dieu a dit son dernier mot, parce que la foi est au-delà de tout ce que les médecins peuvent dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'espoir, ça veut dire que nous allons prier le Seigneur, qui est le Dieu de l'impossible, le Dieu du miracle. Dans ce passage, le malade va demander aux anciens la prière de la foi, la prière d'onction d'huile. Ici, la prière est associée à l'onction d'huile. L'huile est un symbole du Saint-Esprit assez couramment dans l'Écriture. L'huile n'est qu'un instrument, ce n'est pas l'huile qui agit en elle-même. Le texte dit, c'est la prière dans le nom de Jésus, la prière de la foi dans le nom de Jésus qui relèvera le malade. Donc nous avons bien des indications sur la manière de prier dans le nom de Jésus. Et la promesse de ce relèvement, parce que c'est Dieu qui va faire le miracle, eh bien, elle est attribuée, la gloire est attribuée à Dieu. À son nom soit toute la gloire. Alors peut-être vous êtes découragé ce matin, parce que vous avez déjà prié, mais vous êtes toujours malade. C'est une souffrance. Et même quelquefois vous priez et vous priez davantage, mais votre propre santé se dégrade. Et le diable fera tout pour vous décourager, pour vous dire, eh bien, tu vois, ça ne sert à rien de prier, puisque plus tu pries, plus la situation se dégrade. Dieu ne répondra pas, Dieu vous a abandonné, et il vous fait croire des choses fausses. Alors, ne croyez pas ces paroles de doute, mais au contraire, revenez à la parole, le verset 15, « La prière de la foi sauvera le malade. » Ça, c'est notre désir, c'est notre cœur, ne pas nous laisser contaminé par l'adversaire, ne pas croire ses paroles de doute, de découragement, mais revenir à la prière de la foi. Quand vous associez la foi à la prière, frères et sœurs, c'est une arme puissante pour remporter des victoires. Associons toujours la foi et la prière. Je vais vous montrer dans l'enseignement de Jésus ce principe qui ressort dans Matthieu 21, verset 18. Par exemple, Matthieu 21, au verset 18, Jésus nous demande ici de demander, ou c'est-à-dire de prier, demander ou prier avec foi. Matthieu 21, 18. Le matin, en retournant à la ville, donc c'est Jésus, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Et voyez que Jésus associe la foi à la prière. C'est un enseignement très important dans la parole de Dieu qui nous montre que l'un ne va pas sans l'autre. Dans le contexte, vous avez entendu certainement parler de ce figuier qui a été maudit, ce figuier que Jésus a séché par une parole. Ça a fait couler beaucoup d'encre parce que l'évangile de Marc, qui rapporte le même passage, précise que ce n'était pas la saison des figues. Et donc, pourquoi est-ce que Jésus s'étonne de ne pas trouver de figues si ce n'est pas la saison des figues ? Bien, le figuier, en fait, produit un fruit précoce avant les feuilles. Ce sont des petites figues comestibles qui annoncent la production à venir, la récolte. Mais là, en s'approchant, Jésus voit qu'il n'y a rien. Il n'y a pas donc de signe annonciateur dans ce figuier d'une récolte à venir. Alors, on comprend que Jésus va utiliser ce figuier de manière symbolique. Et que si vous lisez dans l'Ancien Testament, Osée chapitre 9, verset 10, Israël est comparé à un figuier. Et c'est tout à fait probable que Jésus ait vu dans ce figuier la nation d'Israël. Osée 9, 10 dit « J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier ». Et souvent, ce texte est donc interprété comme le jugement du Seigneur sur cette nation d'Israël dont il a voulu trouver les fruits, les prémices des fruits annonciateurs d'une récolte et qu'il n'a pas trouvé puisque le peuple a rejeté Jésus et ils n'ont pas vu en lui le Messie. Et donc, cette malédiction qui tombe sur le figuier qui a été séché, bien c'est l'annonce prophétique de cette malédiction qui va frapper Israël puisqu'ils ont rejeté le Messie et ça s'est effectivement produit en l'an 70 lorsque le général romain Titus a envahi Jérusalem et que Israël, la ville de Jérusalem a été détruite et Israël dispersée jusqu'à 1948, donc 2000 ans de dispersion. Au-delà de cet aspect prophétique, Jésus enseigne sur la foi. Il veut mettre l'accent sur la foi. Il dit « si vous avez la foi, donc c'est possible de ne pas avoir la foi. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir la foi et la développer. » Il dit « si vous ne doutiez pas dans votre cœur, donc c'est possible d'avoir encore un cœur rempli de doute, d'incrédulité. » Et Jésus va au-delà du figuier parce que le figuier n'était qu'un prétexte à l'enseignement. En réalité, il dit « mais vous pourriez même vous adresser à cette montagne. » Et cette montagne, par rapport au figuier, c'est énorme la montagne. Quand vous êtes au pied d'une montagne, là les Pyrénées, vous regardez, vous dites « comment on peut faire pour passer cette montagne ? Elle est trop énorme. » Donc il passe de ce simple figuier à des difficultés qui sont insurmontables, inhumaines, incroyables, les montagnes. Et il dit, le figuier, c'est déjà une chose, vous avez vu comment il a été séché en un instant, mais si vous aviez la foi, vous pourriez aller beaucoup plus loin et vous adresser à des problèmes encore beaucoup plus grands, comme des montagnes. Et il dit, à ce moment-là, les montagnes qui sont des obstacles, eh bien, vous allez mettre votre foi dans le miraculeux. Et nous devons, nous, en tant que chrétiens, nous adresser aux montagnes, c'est-à-dire nous adresser aux difficultés et leur dire « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » par la parole. C'est ce que Jésus enseigne. Il dit « il y a deux possibilités. Soit c'est la montagne qui vous parle et qui vous dit « tu n'y arriveras jamais, c'est infranchissable ». La montagne vous dit « c'est pas possible ». Elle est en train de vous parler à votre esprit et vous montrer que vous n'y arriverez jamais. Soit c'est vous qui parlez à la montagne et qui lui dites « maintenant ça suffit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer ». Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et Jésus nous dit clairement que nous devons prendre le parti de nous parler aux problèmes, aux difficultés, aux montagnes qui nous entourent, qui sont insurmontables, et de prononcer ces mots dans la foi. « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer ». Alors ce qui compte, ce n'est pas les mots en eux-mêmes ou l'intensité, mais c'est la foi, l'autorité que nous avons dans le nom du Seigneur par la foi. Et vous savez que la parole est puissante, elle est créatrice. D'ailleurs, notre Dieu a créé l'univers par sa parole. Dès le début, la parole est agissante et puissante. Alors nous devons comprendre que la parole dans le nom du Seigneur a une puissance et nous devons l'utiliser ainsi. Et même nous devons déclarer de bonnes choses sur notre vie. Trop souvent, même des chrétiens disent « Oh, je n'en vaux pas la peine, je suis maudit, personne ne m'aime, personne ne s'intéresse à moi. » Et ils déclarent sur leur propre vie des malédictions, par leurs propres paroles. Et en fait, ils donnent une arme au diable pour les enfoncer. Or, nous devrions, par nos paroles, bénir et dire du bien sur nous-mêmes, sur nos vies, sur nos frères, sur nos sœurs, sur l'Église, sur l'œuvre de Dieu, utiliser nos paroles pour avoir des paroles inspirées, des paroles que Dieu veut. Regardez le Proverbe 18, verset 21, qui dit ceci, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » C'est à double tranchant. La mort et la vie. Tu as le pouvoir de bénir, tu as le pouvoir de maudire. Alors faites le bon choix ce matin. Utilisez votre bouche pour bénir le Seigneur et pour bénir les autres. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et même un chrétien qui a donné sa vie au Seigneur, mais qui se repaît dans des paroles de malédiction, de jugement, de critique, de condamnation, eh bien, il est en train d'attirer, malgré lui, sur sa propre vie, la malédiction qu'il est en train de proférer par sa bouche. Donc, frères et sœurs, soyons vigilants à tout ce qui sort de notre bouche. Et Jésus nous dit que nous devrions utiliser nos paroles avec foi et pour nous adresser à des obstacles infranchissables et pour prendre autorité dans le nom de Jésus. Le verset 22 nous indique vraiment la manière dont nous devons prier. Verset 22, « Tout ce que vous demanderez, c'est-à-dire quand vous priez, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Et là, Jésus bien insiste à la fois sur la prière, la demande, la supplication, l'intercession, mais en même temps, il nous demande d'y ajouter la foi. Et parfois, nous prions avec si peu de foi parce que nous ne croyons pas que Dieu peut vraiment nous exaucer. Mais nous ne sommes pas les seuls. C'est arrivé à bien des chrétiens, même dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, il est fait le récit de Pierre qui avait été arrêté et qui devait être exécuté. Le roi voulait plaire à la population et faire exécuter Pierre. Et quand l'Église apprit que Pierre était en prison, elle s'est mise à prier pour lui. La Bible dit qu'elle ne cessait de prier pour Pierre. Et alors qu'ils étaient en prière et qu'eux ne savaient pas ce qui se passait, Dieu a envoyé un ange dans la prison. Alors quand nous prions, il se passe des choses. Sauf que quand ils sont dans la réunion de prière, ils ne voient pas ce qui se passe. Ils sont juste en train de prier Dieu. Mais alors qu'ils sont en train de prier, il se passe des choses. Et alors que Pierre est en train de dormir, c'était même la veille de son exécution qui était prévue le lendemain. Pendant cette nuit-là, un ange arrive dans la prison. Et alors que Pierre était gardé quand même par 4 escouades de 4 soldats, ça veut dire 16 soldats qui étaient sur son dos quand même, on dirait que parfois les situations sont pas simplement compliquées, mais vraiment trop difficiles. Parce que ce n'était pas un garde qui était sur lui, c'était 16 gardes. C'était trop lourd, c'était impressionnant. Même à vue humaine, il n'y avait aucune issue, aucun espoir. Il était tellement bien gardé. Et alors qu'il dormait, un ange est venu le secouer et lui a dit « Pierre, sors ! Sors de cette prison !» Et là, il s'est passé un miracle, c'est que les gardes ont été aveuglés. Ils n'ont pas vu Pierre sortir. Le texte dit qu'il a passé la première garde, puis la deuxième garde, puis il est arrivé devant la porte de fer de la prison. Et la porte de fer s'est ouverte toute seule devant Pierre. Donc on voit que Dieu a tout pris en main pour que Pierre sorte. Alors, l'Église est toujours en train de prier chez Marie. Ils sont dans une réunion de prière, dans une maison. Ils prient toujours pour que Dieu bénisse Pierre, mais ils ne savent même pas que Pierre est déjà sorti de prison. Et Pierre se rend compte qu'il est sorti. D'abord, il se demande si c'est une vision qu'il a ou si c'est dans la réalité, tellement c'est surnaturel, parce que c'est vraiment incroyable, c'est impossible. Il se retrouve hors de la prison et il savait qu'il y avait une réunion de prière ce soir-là dans la maison de Marie. Il se rend chez Marie. Et alors qu'il frappe à la porte, les disciples envoient la servante pour dire « Mais qui vient frapper ?» Parce qu'ils étaient toujours dans la peur que des Juifs viennent les arracher et les persécuter. Et lorsque la servante Rode entend la voix de Pierre, Elle est dans une telle joie qu'elle oublie d'ouvrir et elle va prévenir les disciples. J'ai une bonne nouvelle, Pierre est sorti de prison. Et là, ils vont dire deux paroles qui sont vraiment incroyables. D'abord, ils lui disent, mais tu es folle, ce n'est pas possible. Alors qu'ils sont en train de prier pour qu'il se passe quelque chose et que Pierre soit protégé, ils n'arrivent pas à croire que c'est possible qu'il soit exaucé. Vous voyez le peu de foi qu'ils avaient. Ils disent, tu es folle. Donc c'est déjà une parole assez dure à encaisser. Mais comme elle insiste et elle dit, si, si, je vous assure, j'ai entendu Pierre, c'est bien sa voix, c'est lui, il est derrière la porte. Eh bien, ils lui disent, c'est pas possible, ça doit être son ange. Donc, ils ne croyaient vraiment pas que c'était Pierre et ils cherchaient même des solutions ailleurs. Donc, deux choses fausses. Cette femme n'était pas folle et ce n'était pas son ange. Ils étaient prêts à croire en fait des choses fausses, mais ils ne croyaient pas la vérité. Et finalement, ils sont allés ouvrir. Pierre est rentré au milieu d'eux, ils ont prié ensemble et ils ont béni le Seigneur pour sa grâce. Donc des fois, nous sommes prêts à croire des choses erronées, tu es folle, c'est son ange, mais nous ne sommes pas prêts à croire que Pierre est vraiment ressuscité, que le miracle a eu lieu, que la bénédiction de Dieu est là. Et ça, c'est une leçon pour nous pour associer vraiment la foi à la prière. Deuxième exemple, toujours Jésus, on va lire le récit parallèle dans Marc au chapitre 11. Et au verset 20, Marc chapitre 11, verset 20, il s'agit du même passage, mais avec des éléments très complémentaires qui ne ressortaient pas dans le premier passage. Donc Marc chapitre 11, verset 20, le même matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines, ce fameux figuier dont on a parlé qui symbolisait Israël. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, asséché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos offenses. Alors nous arrivons au deuxième point, c'est maintenant la foi dans l'exaucement. Ayez foi en Dieu, littéralement, ayez la foi de Dieu. Vous verrez ça dans d'autres versions, ayez la foi de Dieu, c'est-à-dire cette foi qui est nourrie par Dieu, qui est suscitée par Dieu, qui est entretenu par Dieu. Une foi, d'autres versions disent, ayez une foi qui repose sur Dieu, ou la parole vivante, et appuyez-vous sur la fidélité de Dieu. Alors la foi, c'est plus que croire que Dieu existe. La foi, c'est savoir en qui nous mettons notre espérance, en Dieu, qui est au-dessus de tout et qui peut tout. Alors le premier verbe ici, c'est au verset 24, c'est un impératif. Jésus dit d'abord « croyez » un impératif, « croyez ». Impératif présent, c'est donc un ordre. Alors nous devons nous soumettre à l'ordre de Jésus et croire dans la foi, exercer la foi. Nous devons croire maintenant, croyez au présent. Même si vos yeux vous disent le contraire, vous disent « c'est pas possible, ça ne s'arrangera pas, je vois bien que ça ne va pas marcher », croyez, ça c'est l'impératif. Votre foi ne doit pas s'appuyer sur ce que vous voyez, mais sur les promesses de la parole de Dieu, sur ce non pas sur ce que vous sentez, non pas sur vos impressions, mais sur ce que Dieu déclare, sur sa parole qui est certaine. Et nous devons arriver au niveau à croire davantage la parole de Dieu que ce que nos yeux nous montrent. C'est pourquoi il nous dit « croyez d'abord, croyez, commencez par croire ». 2 Corinthiens 5, 7, c'est Paul qui l'enseigne ainsi, « nous marchons par la foi et non par la vue ». Croyez. Vous ne le voyez pas encore ? Mais croyez, parce que vous ne marchez pas par la vue, vous marchez par la foi. Tant que vous marcherez par la vue, et si vous attendez de voir pour croire, alors vous serez toujours arrêté, vous serez bloqué et vous ne pourrez pas avancer dans la vie chrétienne. Vous serez souvent déçu. Donc le premier verbe, c'est croire à l'impératif. Et remarquez que c'est un impératif présent, nous devons croire dès maintenant. Deuxième verbe, c'est vous l'avez reçu. Et là maintenant, on est au passé composé. Vous croyez maintenant et vous l'avez reçu. Et là, on commence à rentrer dans les temps de Dieu, le passé composé. C'est-à-dire que Dieu utilise le passé dans le présent. Il dit, croyez maintenant que vous l'avez déjà reçu. Vous l'avez reçu, c'est-à-dire spirituellement, vous l'avez saisi par la foi. Vous êtes dans le temps de Dieu, en fait, nous devons rentrer dans les temps de Dieu, croire dès maintenant et déjà recevoir dans notre cœur. Vous l'avez dans votre cœur, vous l'avez par la foi. Et là, vous n'êtes plus dans le temps naturel, vous êtes dans le temps divin, le temps de la foi. Et ce temps continue avec le futur, vous le verrez s'accomplir. Vous avez le présent, maintenant nous croyons. Par la foi, nous l'avons déjà reçu, ça c'est le passé, mais nous le verrons, c'est le futur. Et voyez que ces trois temps, en fait, sont réunis autour de la foi. Vous le verrez s'accomplir parce qu'il y a un temps, il y a un temps entre la prière et l'exaucement. Et c'est ce temps-là, c'est cette durée-là, bien que nous devons tenir dans la foi. On aimerait tous, bien sûr, après notre prière, on a prié, Seigneur, voilà, interviens, et puis on dit Amen, et puis hop, la chose se produit. Eh bien, quelquefois, nous serons éprouvés dans le temps parce qu'on ne sait pas quand Dieu va agir, comment il va faire, où il va le faire, mais le texte dit, vous le verrez s'accomplir. Et en fait, entre le temps où nous avons prié et où nous allons le voir, il y a une durée qui est indéterminée, que Dieu connaît. Et cette attente-là, bien, nous devons la vivre dans la foi. Et il y a souvent des temps d'attente dans la vie chrétienne. Vous l'avez remarqué, il y a des temps où on est éprouvé, où la chose ne vient pas, parce qu'il y a un temps qui est déterminé. Et si vous ne savez pas attendre dans la foi, dans la patience, dans la confiance, vous serez frustré parce que vous direz « Dieu n'a pas répondu, Dieu n'a pas agi ». Ce n'est pas qu'il n'a pas agi, mais c'est parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Et donc, en attendant le temps de Dieu, puisque vous le verrez s'accomplir, eh bien, nous allons persévérer dans la foi et dans la reconnaissance. Tout ça, c'est un enseignement que Jésus nous explique par rapport à Dieu. Il y a donc le présent, le passé, le futur qui sont concentrés en même temps. C'est pour ça que Jésus a pu dire aux scribes et aux pharisiens quelque chose qui était vraiment incompréhensible pour eux. Jésus leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, mais fût, ça faisait 2000 ans. C'était il y a 2000 ans qu'il était mort, Abraham. Mais il dit, je suis au présent. Donc, Jésus, déjà, était toujours dans les temps de Dieu. Il n'était jamais bloqué dans un seul temps. C'est pourquoi, quand la promesse est faite à Abraham dans Romains chapitre 4, verset 17, Dieu lui dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Quand Dieu lui dit, je t'ai établi, combien d'enfants a Abraham à ce moment-là ? Zéro enfant encore. Car Dieu lui donne cette promesse que l'enfant n'est pas né. Mais pour Dieu, c'est déjà quelque chose de fait. Et si vous regardez bien, vous verrez que des fois, il dit, je t'établis au présent, des fois, il dit, je t'établirai, et des fois, il dit, je t'ai établi. Et il parle de la même chose, sous trois temps différents. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et là, on entre dans les temps surnaturels de Dieu, qui appelle les choses. Elles ne sont pas, Dieu les appelle, et elles sont, on l'a déjà reçu, mais elles ne sont pas encore dans le monde physique, dans le monde matériel, mais spirituellement, elles sont déjà là. Et donc, c'est là, dans cette dimension-là, que Jésus veut nous faire entrer, ici, dans le verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez maintenant, croyez dans le temps présent, que vous l'avez reçu, passé composé, et vous le verrez, futur, s'accomplir. » Eh bien ça, c'est notre part, c'est d'entrer dans cette bénédiction. Mais il termine en disant « Attention à vos cœurs, parce que si vous avez un manque de pardon, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si vous avez de l'amertume, parce qu'on vient à l'église, on loue, mais notre cœur, s'il est rempli d'amertume, de jugement, de ressentiment, de haine, attention, Dieu n'écoute pas la prière. » À ce moment-là, ça crée un mur, ça crée un blocage. Attention, et là, nous devons nous repentir et ne pas passer par-dessus en disant « Dieu est bon, Dieu pardonne ». Oui, Dieu pardonne quand on se repent avec un cœur sincère. Donc, c'est un avertissement à veiller. Voyez, Proverbe 4, 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne laissez pas ses racines d'amertume, de manque de pardon. » Voyez, quelqu'un qui en a contre un autre, ils s'en veulent, ils sont dans l'offense, ils sont dans toutes sortes de conflits. Alors, garde ton cœur parce que de lui viennent les sources de la vie. Si tu ne règles pas cela, eh bien ta prière ne dépassera pas le plafond, elle restera cantonnée ici. On arrive à un troisième point, c'est maintenant la foi qui s'approprie dans 1 Jean chapitre 5, verset 14. C'est encore un enseignement complémentaire à ces deux paroles de Jésus que nous avons vues. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. D'abord, nous avons une assurance. La foi n'est pas basée sur nos impressions, sur nos émotions, sur nos vagues croyances. Non, ce n'est pas juste un sentiment. La foi, c'est une certitude. Et c'est là que nous devons être dans la foi, une ferme assurance. Vous voyez, quand des alpinistes montent au sommet d'une montagne ou d'un glacier, ils se mettent des cordes les uns aux autres. Ça leur donne de l'assurance. Ça veut dire que si un dérape, les autres vont le retenir. C'est quand même une assurance. Imaginez que vous êtes tout seul dans un glacier sans personne pour vous rattraper si vous tombez. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais quand vous avez cette corde-là, c'est une assurance qui vous donne une certaine protection. Eh bien, c'est ça qu'il nous faut avoir, c'est cette protection, cette assurance reliée à Dieu, qu'il veillera sur nous et que nous tiendrons. Et ça, c'est une assurance qui est précieuse. Ensuite, il nous dit qu'il nous faut demander selon sa volonté. Ça, c'est un point très important. C'est la fin du verset 14. Si nous demandons quelque chose, mais selon sa volonté, et ça, on devrait le souligner parce que beaucoup de nos demandes ne sont pas selon sa volonté, finalement. Nous devons déjà prier pour chercher la volonté de Dieu et prier selon sa volonté, parce que d'autres versets nous mettent en garde, parce que vous priez à tort et à travers. Par exemple, Jacques, chapitre 4, verset 3, il dit « Vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » On voit qu'on peut prier, mais mal, avec des mauvais motifs. Alors, comment prier? Comment connaître la volonté de Dieu? Bien, pour connaître la volonté de Dieu, plus vous allez vous nourrir de la parole de Dieu, plus votre volonté va s'aligner sur la volonté de Dieu. Parce que les prières charnelles ne plaisent pas à Dieu. Les prières du style pour le confort, pour donner, pour avoir toujours plus, pour chercher son intérêt, pour éviter tout service, éviter tout sacrifice, tout cela n'intéresse pas Dieu. Mais quand vous priez selon la volonté de Dieu, « Seigneur, je te confie ma vie, fais de moi ce que tu veux, je veux être un instrument entre tes mains », et vous êtes prêt à faire sa volonté, alors là, les choses s'enclenchent parce que ça plaît à Dieu. Et la bénédiction arrive. Que faire une fois qu'on connaît la volonté de Dieu? Bien, on sait qu'il y a un coût à payer. Quand on veut faire la volonté de Dieu, il y a une grande différence entre celui qui est un croyant et puis le disciple de Jésus-Christ qui a renoncé à tout pour le suivre. Si vous êtes juste un croyant, ben, c'est déjà bien. Vous croyez en Dieu, vous avez donné votre cœur au Seigneur. Mais vous devez passer au stade de disciple, c'est-à-dire Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon roi, c'est lui qui dirige ma vie. Il y a une étape à franchir pour te dire « Jésus est mon sauveur », c'est bien, c'est une première étape. Je bénéficie du sacrifice, Jésus est mort à la croix pour effacer mes péchés, je suis sauvé. Mais maintenant, je veux accepter Jésus comme mon Seigneur et c'est lui qui va diriger ma vie et me conduire dans sa volonté. Et là, vous allez commencer à entrer dans la bénédiction que Dieu a pour vous parce que vous cherchez non pas votre volonté, mais la sienne. Mais ça nécessite des sacrifices et faire ce que Dieu veut. Et puis, donc, si vous êtes là dans cette optique, vous êtes devenu un disciple, vous priez maintenant selon sa volonté. Alors, il nous écoute et nous avons cette assurance qu'il entend nos prières. C'est le stade maintenant de la communion avec Dieu, c'est précieux. Vous voyez, on grandit, on devient un disciple, on entre en communion avec Dieu, on est un avec Dieu. Dieu nous écoute, car Dieu n'écoute pas toutes les prières, mais celles qui sont selon sa volonté. Alors, lorsque vous passez du temps dans la présence de Dieu, vous développez cette relation avec Dieu, c'est extraordinaire. C'est ce que Jésus explique, vous voyez, dans Jean 17, verset 22, cette belle prière qu'on appelle la prière sacerdotale, où Jésus, c'est vraiment le souverain sacrificateur qui prie pour nous. Jean 17, verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés, comme tu m'as aimé, moi en eux, c'est-à-dire Jésus en nous, cette communion et Dieu en nous par Christ. Moi en eux et toi en moi. Il y a donc cette intimité, cette relation que nous devons développer dans la prière, trouver cette communion parfaite avec Dieu. Et Jean continue, eh bien il dit, Dieu nous écoute, et là je vous lis la parole vivante, le verset donc, suivant, le verset 15, si nous savons qu'il nous écoute, nous avons en même temps la certitude que l'objet de nos demandes, quel qu'il soit, nous est déjà acquis. Et là on voit que la foi rend présent ce qui est inaccessible. Elle rend accessible ce qui est inaccessible. Elle rend spirituellement présent la bénédiction future. Par la foi, nous pouvons demander des choses à Dieu et nous attendre à les avoir. Nous l'avons spirituellement dans le temps présent. Je reviens à Abraham. Dans ses promesses, Dieu a donné deux choses à Abraham, dès le début. Il lui a donné une patrie, une terre, c'est Israël. À l'époque, ça s'appelait Canaan. Et il lui a donné une descendance. Et en réalité, Abraham, quand il est arrivé dans la terre que Dieu lui a donnée, il constate une chose, les Cananéens étaient là dans le pays. Et il fallait s'approprier. Et ce n'est finalement que dans le temps, et bien des années plus tard, après la sortie d'Égypte, qu'il y a eu la conquête de Canaan et que les descendants vont s'emparer du pays. Dieu l'a donnée, mais il ne la possédait pas encore matériellement. Ça s'est fait dans le temps et ça s'est fait par sa descendance, qu'il n'avait pas non plus encore, mais qui est arrivée par la suite. Donc, Dieu donne, mais nous devons nous les approprier par la foi et puis ensuite conquérir ce que Dieu nous a donné. Je termine avec deux exemples de foi associée à la prière qu'on trouve dans la parole. Le premier, c'est celui de cette femme qui était atteinte d'une perte de sang et qui, dans son désespoir, a entendu que Jésus passait. Et elle a dit, mais si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Elle avait dépensé son argent depuis 12 ans parmi les médecins sans trouver de solution. Mais elle va placer la foi avant tout et sa foi en Jésus. Si seulement je peux toucher. Alors c'est un acte de foi, ce n'est pas du mysticisme, ce n'est pas qu'on entend des voix. C'est qu'elle croit que Jésus peut faire quelque chose. Donc elle va traverser la foule. Elle va sortir malgré que la loi la rendait rituellement impure. Elle a franchi donc quelques barrières et elle a touché le bord du vêtement. Et au même moment où on voit cette foi qui s'exerce, donc mettons notre foi en Jésus, au même moment où sa foi s'exerce, Jésus dit « Mais qui m'a touché ?» Qui m'a touché ? Parce qu'il avait senti qu'une force était sortie de lui. La foi déclenche la bénédiction. La femme effrayée et tremblante à vous, c'est moi, elle se dénonce en quelque sorte. Mais Jésus lui dit cette parole, ta foi t'a guéri. Ce n'est pas le vêtement qui a guéri cette femme, mais c'est la foi dans le Seigneur Jésus qui l'a guéri. Approchons-nous du Seigneur Jésus avec foi. C'est lui qui guérit, c'est lui qui agit. La foi n'est pas superstitieuse. Vous voyez, on n'est pas attaché à des objets, à des reliques, à des statues. Non. Notre foi, elle est attachée à Jésus directement. C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui dit « ta foi t'a guéri ». La foi permet de nous approprier la bénédiction. Le deuxième exemple se trouve dans Matthieu chapitre 9 et au verset 27. Il s'agit de deux aveugles qui sont là sur la route et ils entendent que Jésus passe et ils se mettent à suivre Jésus en criant « Aie pitié de nous, fils de David !»« Aie pitié de nous, fils de David !» Et ils reconnaissent ici Jésus comme le Messie. Attendu, et il demande la prière. Ce qui est étonnant dans ce passage, c'est que Jésus ne s'arrête pas pour prier pour eux, mais il continue sa route. Il continue sa route, alors on ne sait pas combien de temps, mais jusqu'à la maison. Et ça a duré un certain temps. Mais ces aveugles, ils n'ont pas lâché, ils ne se sont pas découragés, ils ne se sont pas assis sur le bord du chemin. Ils ont continué à suivre le mouvement, aidés par les autres. Ils continuaient à suivre Jésus, en fait, jusqu'à sa demeure, en priant « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi ». On ne sait pas combien de kilomètres ils ont fait. Peut-être quelles pensées les animaient, peut-être de dire « Mais pourquoi est-ce que Jésus ne prie pas pour nous ?» Peut-être ils auraient pu être découragés. Jésus a éprouvé leur foi. Personne n'aime vraiment être éprouvé. Mais en tout cas, quand Jésus est arrivé à la maison, donc ça a mis le temps que ça a duré, alors il a laissé les aveugles s'approcher de lui. Ça montre que ces aveugles devaient persévérer jusqu'à ce que Jésus les admette dans sa présence. Et Jésus leur a posé cette question, « Croyez-vous que je puisse faire cela ? » Croyez-vous. Et donc Jésus va mettre en avant la foi. Est-ce que vous croyez ? Mettez votre foi en action. Donc Jésus, oui, ces aveugles avaient bien reconnu que Jésus c'était le sauveur, comme on disait tout à l'heure, oui, Jésus c'est le sauveur, c'est celui qui pardonne les péchés, mais croyez-vous que je puisse faire cela ? Croyez-vous que je puisse guérir vos yeux et que vous allez recouvrer la vue ? À ce moment-là, ils répondent « Oui, Seigneur ». Et là, on voit que c'est une parole de foi, parce que Jésus dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Donc, on voit que chez Jésus, il met toujours la foi en avant, que ce soit cette femme qui est venue, que ce soit ces aveugles. Alors, vous remarquerez que les miracles se produisent tout le temps de manière très différente. Ici, voilà, ça se passe ici devant la maison. À d'autres fois, c'était dans d'autres contextes. Ça, ce n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est de venir à Jésus avec notre foi. On va prier quelques instants. On a vu que la prière et la foi doivent être vraiment intimement associés. Un peu comme on a deux jambes, eh bien, il nous faut la prière et la foi, sinon on ne peut pas avancer. Et peut-être vous avez prié, mais vous n'avez pas encore vu la réalisation des promesses. C'est pour ça que je vous encourage aussi à persévérer et à tenir bon dans l'attente. Parce que vous l'avez déjà reçu dans votre cœur, mais vous le verrez s'accomplir. Donc ne soyez pas découragés, c'est le test de la foi, c'est l'épreuve dans la durée, et quelquefois il nous faut attendre paisiblement le secours de l'Éternel. C'est comme la parole dit, d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il y a une phase d'attente. Il y a une phase d'attente où on va rester dans la foi, dans la confiance que Dieu va agir. Alors si vous priez sans la foi, bien finalement, vous manquez de puissance et la prière va être des paroles dans le vide. Mais la foi associée à la prière va ajouter de la puissance à vos prières. Quand vous priez selon sa volonté, avec foi, alors vous entrez dans le domaine du miraculeux. Que Dieu soit béni. Merci pour ta parole, merci pour ces conseils. Nous voulons exercer la foi, nous attendre à toi, Seigneur, à ta réponse. Parce que nous voyons bien qu'humainement, nous sommes au bout des possibilités. Mais toi, tu peux faire encore au-delà. Et nous voulons croire, Seigneur, que ces promesses sont encore pour nous aujourd'hui, que tu n'as pas dit ton dernier mot, que tu es capable même d'agir au dernier moment comme tu l'as fait pour Pierre lorsque tu l'as sorti de cette prison, alors que sa condamnation était annoncée pour le matin suivant. Merci, Seigneur, nous te confions tous nos projets, tous nos besoins, et nous croyons que tu es là ce matin pour bénir, pour accorder un renouvellement dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.